des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Salut Félix, écoute, Hugo Girard aurait peut-être des liens avec les Hells Angels. On apprend ça sous la plume de Éric Thibault dans le Journal de Montréal. Mais ce qui m'a... Il y a une phrase quand même qui m'a jeté en bas de ma chaise, mon cher Félix. Alors, il y a Pellerin, c'est un proche des Hells. Pellerin a participé au tournoi de golf des Hells de Sherbrooke au profit de la Fondation Rêve d'Enfants. Attends une minute, les Hells font un tournoi de golf. T'imagines-tu, toi, le tournoi de golf de la mafia italienne à Saint-Léonard?
Ah, je te dis, Richard, t'as raison d'être éberlué par ça. Puis tu peux même avoir raison de t'en dire préoccupé aussi, si toutefois c'est ta posture, ta position par rapport à ça. Parce que c'est à l'instar de leurs collègues, de Californie, exemple, et de plusieurs endroits aux États-Unis, les Hells Angels font souvent dans le caritatif.
Ben voyons donc.
Ils organisent, tu vois, il y a un événement que les Hells organisent, je crois que c'est en Californie, d'ailleurs, état de naissance des Hells Angels au cours des années 60, après la guerre. C'est la grande race dans le Walmart. Alors, tu vois des Hells Angels là qui se présentent dans les magasins à rayon et qui dévalisent, entre guillemets, là, qui achètent mais des jouets là à ne plus savoir qu'en faire. Et ils vont finalement les distribuer aux enfants malades, aux gens dans le besoin, etc. C'est à une certaine époque,
ben
c'était
voyons.
Un événement auquel les médias étaient conviés. Puis
il y avait des
CBS, NBC, ABC de ce monde qui se présentaient pour filmer les motards en train de remettre ce qu'ils avaient amassé à titre de don caritatif. Alors,
mais
oui,
c'est
les Hells Angels.
Surréaliste.
Sont...
Écoute, ben c'est oui. Surréaliste. Les Hells Angels qui font un tournoi de golf à Sherbrooke et qui remettent ça à Rêve d'Enfant, mais Rêve d'Enfant, ils acceptent ça de l'argent qui a été amassé par un groupe criminel?
Souvent, ce qui va arriver dans ces. Et puis la mafia le fait aussi, mais tu vas voir la différence entre les deux organisations. Souvent, ce qui arrivera quand les Hells Angels vont recueillir de l'argent pour remettre à Rêve d'Enfant, le chèque ne proviendra pas nécessairement d'un membre en règle des Hells Angels. Et donc, on va garder un bras de distance entre ceux qui ont amassé l'argent puis celui qui va remettre l'argent à la Fondation pour pas qu'une Fondation puisse se dissocier, justement, de l'organisation qui lui donne les sous. Ça arrive souvent. La mafia fait ça, mais dans le plus grand des secrets, exemple, moi, j'ai eu des sources dans le monde criminel, dans le passé, qui donnaient des milliers de dollars, exemple, aux fondations hospitalières, comme celle du Children, dans le cas de la personne dont je te parle, mais jamais en personne, par des personnes interposées.
Par le bien des personnes interposées. Écoute, même...
Que ces dons-là soient publicisés, sauf que c'est important ce que je veux te dire. Regarde la grande différence entre la mafia et les motards. Les Hells Angels, ça leur fait plaisir que ces dons-là soient publicisés. Tandis que pour ce qui est de la mafia, qui est une organisation elle-même, par définition, beaucoup plus secrète, tente de se tenir loin de ce genre de publicité-là, même positive.
Ben écoute, les Hells Angels, on se souvient, là, il y a quelque temps, un été, ils avaient une présence, il y avait un kiosque dans une foire agricole où les Hells Angels étaient là. Ils ont même leur propre site internet de Big Red Machine où on peut acheter justement des chapeaux, des t-shirts à l'effigie des Hells Angels. On se souvient, tu sais, souvent dans les films là, sur la mafia, les débuts de la mafia dans les années 40-50, ce qui arrivait, c'est qu'ils achetaient des dindes, où ils volaient des dindes, puis là, ils arrivaient avec des camions dans des quartiers défavorisés, ils ouvraient la boîte du camion puis ils distribuaient à Noël des dindes aux gens qui étaient pauvres. Et là, les gens étaient tout contents puis aimaient donc la mafia italienne parce qu'ils faisaient justement du caritatif une fois de temps en temps. Incroyable.
Mais oui, mais tu sais pourquoi, hein? Tu sais pourquoi les Hells Angels, et puis c'est ce fameux logo Support 81 ou la fameuse tête de mort ailée, puis on vend des emblèmes à son effigie, des chandails, etc. C'est parce que ces patchs-là en question selon les experts policiers, sont un symbole d'intimidation. Les gens les craignent. Et lorsque tu les portes et lorsqu'elles sont visibles, tu fais deux choses. D'abord, tu suscites la peur chez certaines personnes, selon la police, mais aussi tu délimites ton territoire. Alors, plus tu es présent et visible, surtout dans des endroits, c'est comme si tu marquais le coup en disant, ici, ce territoire-là, c'est à moi.
Ben oui.
Et voilà.
Ben oui, là, donc, Hugo Girard aurait des liens avec les Hells Angels.
Ben, justement, ça, c'est ce que l'analyste civil de la Sûreté du Québec, Éric Courchesne, a déclaré, nous rapporte Éric Thibault, là, mercredi, devant la Régie des alcools, des courses et des jeux, ce qu'on appelle la RACJ. En fait, c'est un dossier qui impliquait deux firmes. La firme New Era Fighting et Promotion et son président Yann Pellerin. Eux, ils sont devant cet organisme-là, la RACJ, pour continuer à organiser des galas de boxe et d'arts martiaux mixtes, ce qu'on appelle la MMA, dont les Hells Angels, d'ailleurs, sont des grands fans. Alors, cet analyste-là a témoigné, puis il s'est dit préoccupé de l'intégrité de la firme, donc de la compagnie, à la suite d'une enquête de sécurité que lui-même a fait à la demande de la RACJ. Et ce qu'il a révélé, l'analyste Courchain, c'est les liens que le promoteur de New Era, qui s'appelle Pellerin, dont on a parlé, c'est lui qui a fondé la firme, et Hugo Girard. Girard, tu le connais, on le connaît, tout le monde connaît Hugo Girard, ancien policier de Gatineau, qui était un des plus grands hommes forts du Québec et du monde. Lui est actionnaire de la firme à Pellerin, 50%. Sauf que là, il n'y a plus d'intérêt, Girard, dans ça, mais il est toujours administrateur de cette firme-là. Le centre d'entraînement qu'Hugo Girard possède à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, était appelé avant le Pro Gym. Il abrite également, selon cet analyste-là, les activités d'une compagnie liée au moteur. Donc là, tu comprends que c'est la compagnie qui est liée au moteur en question. Elle s'appelle ProBox. Puis les actionnaires de ProBox, ben il y a des Hells Angels, des membres en règle, là, Claude Pépin, Luc Gauthier, un ancien des Jokers de Saint-Jean. C'est quand même, là, alors le même le gérant et l'ancien président du gym est considéré comme une relation des Hells.
L'ancien gérant du gym, le gérant du gym qui a été condamné, reconnu coupable pour possession de plusieurs milliers de comprimés de stéroïdes. Moi, je suis convaincu. Hugo Girard n'a jamais pris de stéroïdes. Moi, je suis sûr que tout ça est naturel. En tout cas, bref. Écoute, oui, c'est des liens quand même. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il va perdre des contrats à la télévision? Parce que c'est un animateur très connu.
C'est ça. Je sais pas quelle sera la réception du public à cette nouvelle-là, puisque Hugo Girard semble être, comme on écrit parfois dans les rapports de renseignement policiers, avantageusement connu ou favorablement connu du public, puis aimé, bref, et tout ça. Sauf que c'est une posture difficile quand tu signes un document à côté duquel il y a le nom de personnes qui sont liées au moteur criminel. Mais il faut comprendre une chose. Le pain et le beurre de toute organisation criminelle, c'est aussi de s'associer avec des gens qui sont blancs comme neige. Est-ce que Hugo Girard aurait, exemple, pris pour du cash, passe-moi l'expression, les promesses des gens qui étaient là en disant non, 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 nous autres, on est droit, puis il n'y a pas de problème. Et s'il a fait ça, a-t-il fait preuve d'aveuglement volontaire? C'est comme des fois, tu n'as pas besoin de faire défoncer ta porte pour que le crime organisé rentre dedans. Si tu la laisses entre-ouverte, ils peuvent juste l'ouvrir tranquillement. Alors, où se situe Hugo Girard dans ça? C'est ça la question. Et quel dommage tout ça va lui causer? C'est ça l'autre question.
Mm-hmm. Écoute, je veux que tu me parles absolument de Claire Bronfman, l'héritière de la fortune Bronfman. C'est une histoire qui me fascine. C'est une histoire incroyable. Elle est tombée sous le joug d'un gourou, là. Puis là, elle a été condamnée quand même à plusieurs années de prison.
Justement, moi, comme l'affaire Epstein, affaire-là, j'ai lu là-dessus, là, à peu près tout ce qui se faisait. The Atlantic en a fait un papier, d'ailleurs, il y a un an, là, qui font des longs papiers. Et puis, c'était franchement éclairant, puis captivant, même si cette histoire-là est foncièrement dégueulasse. Tu sais que Claire Bronfman a été sous l'emprise d'un d'un gourou qui entretenait des esclaves sexuels. Et Claire Bruntman, si vous savez pas c'est qui, rapidement, c'est l'héritière des Bruntman, l'empire Seagram, là, à Montréal, qui a pris naissance à Montréal. Alors, elle a été condamnée mercredi à New York à 6 ans de prison, 81 mois précisément. Elle a plaidé coupable dans le scandale de trafic sexuel de cette secte-là. Elle doit verser 500 000 $ aussi. Elle a juste 41 ans. C'est la fille de Edgar Bronfman. Elle a plaidé coupable en avril de fraude, d'avoir caché un individu clandestin pour le compte de la secte qui a été créée, rappelle-toi, par Keith Ranière. Et pendant ce temps-là, jusqu'en juin 2019, il a été, lui, trouvé coupable d'avoir entretenu un harem de 15 à 20 esclaves sexuels. Elle n'a pas de lien avec l'esclavage, mais ce qu'on comprend, c'est qu'elle est en train de dilapider une partie de sa propre fortune pour soutenir ce gourou-là. La fortune créée par les gens qui le suivaient dans ses patentes, de Keith Ranière, c'est le gourou dans ça, est estimée à 210 millions de dollars. Alors, il a vraiment réussi. Et sais-tu quoi? Ce qui est fascinant dans cette histoire-là, on dirait, il semble y avoir, puis je réfère à de vieux articles, là, il semblait y avoir un vide spirituel chez plusieurs personnes qui étaient ultra friquées, qui avaient beaucoup d'argent. C'est là où il entre en jeu.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est des gens, tu sais qu'on dit l'argent fait pas le bonheur, mais tu le vois, c'est des gens qui ont grandi dans des milieux extrêmement fortunés, mais qui avaient visiblement pas d'amour, énormément de confort, tout le confort matériel dont on peut rêver, mais un vide spirituel, comme tu dis, un trou à l'intérieur, et ce gars-là s'immisçait là-dedans, et c'est tous des grands manipulateurs, et là, ils se mettaient de chum, et ça me faisait penser à Patty Hearst. Tu te souviens qu'il avait été enlevé par une gang de terroristes et qui est devenu ami avec eux autres, puis qui faisait des hold-up avec eux autres?
Oui, ben tu vois, jusqu'au bout, Claire Bronfman, dans le cas du gourou Ranière, elle a refusé de le renier. Puis je la cite ici, elle dit « Pendant mes nombreuses années à la secte, j'ai commencé à apprécier la vie, à me sentir acceptée, aimée et heureuse. » C'est ce qu'elle a écrit au juge qui l'a jugé à la fin du mois d'août, et elle ajoute « Beaucoup de membres de cette communauté sont devenus un peu ma famille et je ne peux pas tourner le dos à ces amitiés ni nier le profond impact que Keith et la secte ont eu sur ma vie. » Alors, c'est particulier parce que quand tu refuses d'accepter les faits qui sont devant toi, comme quoi c'est finalement une secte qui entretenait des esclaves sexuels, qui dilapidait aussi, qui volait en quelque sorte la fortune de certaines personnes richissimes, ben tu contribues à alourdir ta peine. Et c'est probablement, ça a été pris en considération dans son jugement, parce qu'au fond, elle avoue rien. Et au fond, elle ne renie rien et elle ne regrette rien. Alors, cette affaire-là, moi,
c'est passionnant. 81 mois de prison et le gourou entretenait plusieurs esclaves. Il y avait un harem de 15 à 20 esclaves sexuels. Elle était partie prenante de cette affaire-là. Une des héritières des plus grosses fortunes canadiennes. Incroyable. Merci beaucoup, Félix Séguin. Merci. Bonne journée.
Ça marche, bye.
Salut. Exactement comme Patty Hearst, qui était l'héritière de la fortune des Hearst. Elle s'était fait enlever par l'Armée de libération saint-bionnaise, qui était une gang de radicaux de gauche dans les années 70. Elle est devenue amie avec eux. Elle a épousé leur cause. Et après ça, elle faisait des hold-up, Patty Hearst. Des gens qui sont très riches, mais complètement fuckés et qui sont à la recherche de l'amour.